Oh, mikir sepastil.
Mikir sepastil.
Oh, mikir sepas.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ces nouvelles du monde, de retour après une petite dizaine de jours d'absence, ça fait du bien de décrocher un petit peu, et il s'en passe encore des choses en mon absence, hein. À mon grand désarroi, l'actualité n'est toujours pas franchement rose, même si, vous le savez, des poches de résistance continuent d'exister, tous ces nuages noirs, et nous, on les cherche. Et puis, il y a des bonnes nouvelles aussi. Par exemple, on a des rendez-vous, on a de nouveaux membres dans l'équipe. On a Héloïse qui est avec nous, qui vient rajeunir un petit peu l'équipe le temps d'un mois. Bonjour à lui et bonjour Héloïse.
Bonjour.
Qui viendra nous faire une chronique à la fin de ses actualités. Sa première, elle a commencé que hier, donc pour autant vous dire qu'elle est au taquet. Allez, on va s'y mettre tout de suite. Je vous disais, c'était pas rose-rose. Eh bien, on va commencer avec le rassemblement qui a eu lieu hier à Alès suite à l'agression qui a eu lieu pendant la feria de Nîmes au bar Le Prolet. Un grand non à l'extrême droite, donc, c'est ce que scandaient hier les participants de ce grand rassemblement organisé donc ce lundi soir à Alès. Suite à l'agression qui a eu lieu ce week-end au bar Le Prolet pendant le week-end de la feria. Des violences survenues donc dans le bar, un bar géré par le parti communiste local, un vendredi soir. Une douzaine de néo-nazis, appelons-les comme ça, du bloc montpelliérain, ont violemment frappé des clients et des militants communistes qui étaient réunis ce vendredi dans la cour de ce bar emblématique pour célébrer donc les férias d'Alès. Les agresseurs ont asséné des coups et du gaz lacrymogène sur la foule en fête et les militants communistes ainsi que leurs amis. C'est ce que dénonce le communiqué signé le soir même par Giovanni Di Francesco, le secrétaire de section du PCF de Alès. La vingtaine de personnes qui se trouvaient donc dans la cour de ce lieu qui avait sorti la guinguette pour l'occasion ont été blessés et ils ont été secourus ensuite par la Croix-Rouge et le SAMU. Parmi les blessés les plus graves, un militant cheminot hospitalisé en urgence. Et a priori, c'est quelques nez cassés que déplorent les victimes de cette agression. Devant la gravité des faits, au moment où partout en France, l'extrême droite trouve banalisation médiatique, mais aussi complaisance du pouvoir et porosité de la droite, tant nationalement que localement, lui donnant ainsi des ailes, nous condamnons vivement et appelons à réagir fermement, a ajouté aussi le responsable communiste. Il appelait donc dans la foulée à un rassemblement républicain qui a eu lieu hier, donc lundi 2 juin à 18h, devant la sous-préfecture d'Alès, pour dénoncer donc cette montée fasciste de plus en plus décomplexée. Il demandait aussi, avec de nombreux soutiens, au maire et au sous-préfet de veiller scrupuleusement à empêcher ces individus, connus et reconnaissables selon eux, d'exercer leur bestialité dans la ville en ce jour de fête, puisque samedi c'était encore la feria, et que le bar Le Prolet est resté ouvert aussi le lendemain. Même si heureusement, il n'y a eu aucune agression à déplorer. Cet élu de Nîmes donc, a demandé aussi la dissolution du bloc montpelliérain, qui constitue pour lui un danger pour la République. Nous leur opposons, dit-il, fraternité, lutte émancipatrice et culture, solidarité et justice sociale et paix. Hier soir, donc, entre environ 1500 personnes se sont réunies à Alès dans cet immense cortège qui est parti de la sous-préfecture avec des manifestants locaux, mais aussi qui ont afflué en nombre depuis Nîmes, Montpellier, Avignon ou encore Bolène. Un exemple avec David Pascal, secrétaire de la section Orange du Parti communiste qui était là hier et qui s'exprimait dans les colonnes du journal L'Humanité. « C'est gravissime, dit-il, si on ne bronche pas maintenant, on ne le fera jamais. On combat l'extrême droite depuis 30 ans, on sait que les autorités ne feront pas le nécessaire. C'est aux militants de tous les milieux de se mobiliser. » Du côté des agresseurs présumés, donc le bloc montpelliérain, il nie toute participation à l'irruption dans le bar Le Prolet, qui a fait, je le rappelle, un blessé grave, et une dizaine de personnes qui ont donc subi des gaz lacrymogènes, dont des personnes âgées. Malgré cela, une enquête est ouverte pour violence aggravée par l'usage d'une arme et en réunion. Et du côté de l'enquête policière, donc 7 plaintes ont été déposées, dont 2 pour violence, les autres pour incommodation au gaz lacrymogène. L'enquête se poursuit avec des images, notamment d'un groupe d'individus qui se préparent, hein, vêtus de noir, près du prolet ce soir-là dans une ruelle, mais dont on peut identifier les visages. Et pour tous les témoins présents ce jour-là, leur identité ne fait aucun mystère. Par exemple, cette militante interrogée dans les colonnes de Objectif Gare, qui était présente lors de l'agression, elle est catégorique concernant donc l'implication de membres du bloc montpelliérain. Elle précise d'ailleurs que 3 de ses membres étaient déjà venus le mercredi soir pour coller sur place des autocollants de leur groupuscule, hein, à des fins de provocation. C'est une pratique qui se fait notamment aussi chez les hooligans des clubs de sport. Ces mêmes militants seraient donc revenus avec des renforts le vendredi soir dans le but d'en découdre. On leur a demandé de quitter les lieux, ils n'ont pas voulu et ont frappé tout ce qu'il y avait, clients comme militants. Ils n'ont pas fait de cas, précise-t-elle. La question donc de la dissolution de ce bloc montpelliérain est urgente aujourd'hui, comme l'exprimait par exemple sur X le sénateur communiste Yann Brossat. Le ministre de l'Intérieur, demande-t-il, trouvera-t-il le temps, entre deux saillies sur les dangers du wokisme et de l'immigration, de dissoudre ce groupe néo-nazi ? Ce groupe compte plus de 1200 abonnés sur Telegram, 2300 sur Instagram, et leur organisation est à l'image donc de nombreux petits groupes nationalistes qui fleurissent aux quatre coins de la France. Malgré les menaces de dissolution, adeptes donc de ces codes virilistes et du folklore néofasciste, les membres du bloc montpelliérain, par exemple, étaient aussi représentés à Paris lors de la dernière manifestation du comité du 9 mai, qui avait elle aussi fait grand bruit. Et on relie cette histoire avec le meurtre qui a eu lieu à Puget-sur-Argens dans le Var. Un article du Parisien rappelle que l'auteur de cette attaque sanglante, Christophe B., a diffusé 2 vidéos sur les réseaux sociaux avant et après ses agressions. Une de ces vidéos appelait notamment les Français à se révolter et à tirer sur les personnes maghrébines et les Noirs. Le parquet national antiterroriste s'est donc saisi de l'enquête. Car le suspect, donc je vous le disais, avait prêté allégeance au drapeau français et revendiquait donc son patriotisme pour expliquer ses faits gravissimes. C'est donc la première fois que la justice antiterroriste se saisit d'un meurtre dont les ressorts pourraient être liés à une idéologie d'ultra-droite. Un crime qualifié donc à ce stade à la fois de raciste et de terroriste qui est revendiqué par son auteur dans des vidéos qu'il a diffusées en ligne. C'était ce samedi 31 mai. Il était environ 22h, donc lorsque cet homme de 53 ans ouvre le feu sur 2 de ses voisins dans une zone industrielle sur la commune de Puget-sur-Argens dans le Var. On est à quelques kilomètres de la ville de Fréjus. Une de ces 2 victimes donc ne se relèvera pas. Elle a été touchée par 5 impacts de balles et identifiée donc comme un Tunisien âgé de 45 ans. L'autre victime est un homme de 34 ans, de nationalité turque. Il sera lui grièvement blessé à la main mais survivra donc à l'attaque. L'assaillant, suite à cela, a pris la fuite en voiture et grâce à une dénonciation de sa compagne, il a été interpellé dimanche vers les 5h du matin par les gendarmes de l'antenne du GIGN. Plusieurs armes ont été retrouvées dans son véhicule, de type pistolet automatique, fusil à pompe ou arme de poing, a précisé le magistrat Pierre Coutenier. Un petit mot sur la victime, hein, donc cette personne originaire de Tunisie, Hicham Mirawi, qui avait quitté donc la Tunisie pour venir se bâtir un avenir meilleur en France. C'est ce qu'explique l'avocat de la famille Mourad Batik. C'était un coiffeur apprécié dans la commune et décrit comme un homme respectueux et très intégré. Devant son salon de coiffure, depuis le drame, les habitants sont venus lui rendre hommage hier, portant des fleurs et des messages. L'avocat donc de la victime souligne que Hicham, qui était inconnu des services de police, n'avait jamais eu de problème et que sa mort, pour lui, est la conséquence directe d'une atmosphère alimentée par la stigmatisation, les amalgames et la banalisation de la violence raciste. Le principal suspect, donc cet homme de 53 ans, n'était pas non plus fiché par les services de renseignement. Adepte du tir sportif, ce mis en cause avait donc diffusé avant et après son passage à l'acte 2 vidéos sur son compte d'un réseau social au contenu raciste et haineux. Il appelait donc notamment à la violence contre les personnes d'origine maghrébine et ne cachait pas non plus son admiration pour Jean-Marie Le Pen. Une voisine l'a d'ailleurs décrit depuis comme très raciste. Selon elle, il voulait tuer les Noirs et les Arabes, ce qui, rappelons-le, en tant que simple parole, est déjà un délit. Hier soir, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, très attendu, a dénoncé un crime raciste et prémédité. Il a ajouté que le racisme en France était un poison qui tue. D'un autre côté, l'association SOS Racisme, elle fustigeait dans un communiqué justement que le racisme est encore frappé en France et explique-t-elle le double crime qui a frappé deux hommes dans le Var n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Il est le résultat d'un travail minutieux mené par le camp du racisme et visant à rendre à nouveau légitime l'expression du racisme en mots et en actes. Face à cette sinistre évolution, il est urgent que les responsables politiques et les médias cessent d'ignorer la parole antiraciste quand ils ne travaillent pas à la marginaliser. C'était les mots donc du président de SOS Racisme, Dominique Sopo. On revient dans la saga judiciaire des pros et des anti A69 pour l'autoroute. Une loi de validation vient d'être rejetée par l'Assemblée nationale, mais est-ce pour être mieux adoptée par la suite ? C'est à l'issue d'une séance plus que houleuse que l'Assemblée nationale a donc rejeté à l'unanimité, vous allez voir pourquoi, ce lundi soir, donc hier, la loi de validation. Cette loi visait à valider rétroactivement des autorisations environnementales pour donc le chantier de l'autoroute A69 et donc empêcher un éventuel nouvel arrêt des travaux. Elle a été rejetée donc à l'unanimité, 176 voix pour, contre, 0 contre. Cela va s'expliquer, vous allez le voir, dans les rouages justement de la manière dont les lois sont votées. Ce rejet du texte donc risque de se faire pour qu'il soit finalement mieux voté. C'est ce qu'expliquent les partisans de l'autoroute entre Castres et Toulouse. La motion de censure avait été déposée contre cette loi par le groupe La France Insoumise, une motion de rejet préalable à l'examen de la proposition de loi. Proposition de loi, elle, portée par les députés du Tarn, Jean Terlier et Philippe Bonnecarrière. Cette motion de rejet estimait justement que la loi portait atteinte à la séparation des pouvoirs, je vous en avais parlé il y a une dizaine de jours, puisque le tribunal administratif de Toulouse avait annulé le 27 février dernier des autorisations environnementales qui étaient délivrées par l'État et qui permettaient donc au concessionnaire de commencer ses travaux. Celle-ci estimait qu'il n'y avait pas de nécessité impérieuse de déroger aux règles de protection de l'environnement et des espèces protégées donc pour réaliser cette autoroute. La cour d'appel autorisait finalement le 28 mai la reprise des travaux suite à une demande de sursis à exécution demandée par l'État. C'est vraiment à qui jouera la carte, qui aura la meilleure carte dans sa manche. Mais comme les élus donc insoumis et écologistes avaient déposé sur cette loi plus de 700 amendements, cette loi n'aurait de toute façon pas pu être votée dans les délais qui sont impartis dans la niche parlementaire en question. C'est donc pourquoi tous les autres groupes ont sauté dans le train et ont voté aussi. Ça serait par exemple les groupes du centre, de la droite ou du RN qui sont eux favorables à l'adoption du texte et aux travaux de l'autoroute. Ils ont profité de cette opportunité pour la motion de rejet, pour la voter afin que le texte finalement aille se discuter en commission mixte paritaire. Vous savez, cette fameuse commission qui réunit des députés et des sénateurs. Et elle, a priori, ses résultats sont plutôt favorables à la reprise des travaux de l'autoroute. Elle devrait être conclusive, hein, puisque le Sénat avait déjà adopté une large majorité cette loi le 15 mai dernier. Ainsi d'ailleurs que la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Donc, pour les porteurs de cette motion de censure, c'est un petit peu l'arroseur arrosé pour les parlementaires favorables à la 69. Et je ne trouve plus mon bouton. Allez, voilà.
C'était vraiment très intéressant.
Un bateau de la coalition de la flottille de la liberté est parti ce dimanche 1er juin de Sicile. Son but, c'est de tenter de percer le blocus de la bande de Gaza pour y apporter de l'aide humanitaire et aussi surtout faire tourner les caméras et l'attention médiatique sur la situation des gens qui y vivent. L'équipage de ce bateau est composé notamment d'une douzaine de personnes, dont Greta Thunberg, hein, qui est bien connue pour son engagement écologiste, également l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. Ces militants donc appellent à visibiliser et à médiatiser leur action pour dénoncer la politique d'Israël, mais aussi pour protéger leur embarcation qui est source de nombreuses menaces. La flottille pour la liberté, c'est donc le nom de ce bateau, a levé l'ancre ce dimanche 1er juin. C'est une coalition d'ONG qui milite pour la fin du blocus israélien illégal de la bande de Gaza, qui a dépêché un petit voilier, le Madeleine, au départ de Catane, en Sicile. à son bord, donc je vous le disais, Greta Thunberg et Rima Hassan, mais aussi Omar Fayad, un journaliste présentateur pour Al Jazeera, Pascal Morieras, qui faisait partie de l'équipage du Freedom, un autre navire de la flottille pour Gaza qui avait été arraisonné en 2018 et arrêté par les forces israéliennes. On peut citer aussi le militant brésilien Thiago Avila ou encore l'activiste allemande Yasemin Akar. Leur objectif donc est d'apporter de l'aide humanitaire, évidemment avec un petit bateau ça sera pas spectaculaire, il y aura de la nourriture dedans, mais aussi et surtout de dénoncer le blocus humanitaire et le génocide en cours et l'impunité dont bénéficie l'État d'Israël pour sensibiliser l'opinion mondiale et internationale, ce sont les mots de la députée Rima Hassan. Cette initiative est donc soutenue et relayée par de nombreuses organisations et personnalités. Le but est de donner du retentissement à cette action, mais aussi de protéger, hein, grâce à la couverture médiatique, le navire et son équipage, tout petit au milieu de la mer Méditerranée. En effet, moins d'un mois avant que ce bateau ne lève l'ancre, le Conscience, un autre navire de la flottille de la Liberté, avait été attaqué par des drones dans les eaux internationales, c'était au large de Malte. De nombreux militants accusaient l'armée israélienne d'être à l'origine de ces attaques. J'espère que Greta et ses amis savent nager. C'est par exemple un commentaire qu'on peut lire sur X de la part du sénateur républicain états-unien Lindsey Graham. Un exemple, parmi d'autres, de la menace qui pèse sur ses militants. Pour ce qui est des soutiens à cette coalition de la flottille de la liberté, on peut citer la militante britannique Sarah Wilkinson, la journaliste et militante états-unienne Abby Martin, la secrétaire générale du parti progressiste espagnol de Podemos, Yone Belarra, l'acteur Liam Cunningham de Game of Thrones ou encore le groupe Attaque France. Il rappelle que la population de la bande de Gaza est affamée par 3 mois de blocus total de l'aide humanitaire de la part du gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui s'est à peine assoupli depuis la fin du mois de mai. Et encore, hein, le nouveau système de distribution d'aide alimentaire qui a été donc mis en place et voulu par Israël et les États-Unis semble plutôt tuer ceux qu'il est censé sauver. En effet, on compte déjà 72 personnes tuées par balles et des centaines de blessés depuis une semaine par des tirs de l'armée israélienne alors que ces personnes attendaient les fameux colis alimentaires. Des dizaines de témoignages indiquent que, par exemple, les personnes dans la foule qui se pressaient devant 2 centres de distribution qui ont été ouverts par GHF, on parle du centre de Rafah au sud de la bande de Gaza et un autre près du checkpoint de Netzarim, qui sépare le nord et le sud de l'enclave, eh bien ces personnes ont essuyé des tirs de drones, de chars et de soldats israéliens. Un exemple d'un témoignage de Mansour Sami Abdi, un rescapé de ces scènes de cauchemar. Les gens se battaient pour 5 palettes de nourriture, dit-il. On nous a dit d'en prendre, puis on nous a tiré dessus de tous les côtés. Ça, ce n'est pas de l'aide, c'est un piège. Et des vidéos circulent en effet où on voit des foules apeurées tenter de fuir les points donc où sont distribués les quelques colis alimentaires qui ont pu passer la frontière. Selon l'UNICEF, 470 000 personnes, ce qui fait un quart de la population gazaouie, sont actuellement confrontées à la famine. Et selon l'ONU, 100% de la population dans la bande de Gaza est aujourd'hui menacée de famine. Enfin, selon le ministère de la Santé de Gaza, je rappelle que 55 000 personnes ont été tuées depuis le 7 octobre et qu'on compte environ 125 000 blessés. 14 000 personnes, elles, sont toujours considérées disparues, certainement sous les décombres.
Ah, les rebelles, tout ça, mais c'était que vraiment la fin.
On descend à Nice, où le sommet des océans va débuter. On veut donc protéger les océans, mais visiblement, on muselle leurs défenseurs. Dans la soirée du mercredi dernier, donc le 28 mai, 5 militants de la branche locale de Greenpeace France ont été interpellés et placés en garde à vue pendant 20 heures et perquisitionnés à leur domicile. Leur crime, eh bien, c'est d'avoir réalisé des graffitis dénonçant le faible niveau de protection des aires marines protégées en France. Ils le faisaient donc en prévision de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan qui va se tenir à Nice du 9 au 13 juin prochain. Contacté par le journal Reporter, hein, qui relaye cette information, un de ces 5 militants, c'est Philippe Spadotto, il explique d'ailleurs que son groupe avait pris soin d'utiliser une bombe à la craie, donc qui s'enlève à l'eau, et de coller des affichettes avec de la colle faite à partir de farine, donc pas du vandalisme vraiment de haute volée. Ils avaient d'ailleurs aussi fait attention à ne pas viser des monuments historiques ou des immeubles d'habitation. Eh bien, ces militants ont été interpellés donc, pendant leur session de collage dans le quartier de la Libération de Nice. Malgré leurs demandes, ils n'ont pas pu contacter leur avocate, Marie Dauzé, ce qui est donc contraire au droit de la défense. Dans Nice Matin, le parquet se justifie de cela en évoquant une erreur de numéro de téléphone. Donc. Le lendemain de cette garde à vue, les membres du groupe ont ensuite été menés à leur domicile pour une perquisition. J'étais toujours menotté et les policiers étaient en armes. Ils sont restés 40 minutes chez moi, ont lu des courriers personnels, pris des photos et une carte SD, explique aussi ce militant, par ailleurs professeur d'histoire-géographie. Un tel niveau de répression semble inédit pour ces militants de Greenpeace, explique celui qui est d'ailleurs aussi référent océan de l'antenne locale de l'association. Les 5 bénévoles n'ont finalement été libérés que le jeudi 29 mai au soir et depuis ils ont reçu une convocation devant le délégué du procureur de la République. D'après le journal Nice Matin, qui est visiblement au courant des dessous de l'affaire, le parquet projetterait de classer cette affaire à condition de versement d'une contribution citoyenne de 500 euros et d'une indemnisation de la mairie. La mairie estime en effet que le coût des réparations liées à ces graffitis et collages est estimé à 1548 euros et elle a porté plainte. Et on continue avec Greenpeace qui est décidément dans sa saison d'action puisque hier, lundi, dans la matinée, des activistes de cette ONG ont emprunté la statue de cire d'Emmanuel Macron qui était exposée au musée Grévin à Paris et le tout filmé, diffusé sur les réseaux sociaux. Cette statue a donc été empruntée pour être déplacée puisqu'à 14h45, ils l'ont trimballée dans Paris et se sont rassemblés devant l'ambassade de Russie à Paris, donc munie d'une banderole qui dénonce le maintien justement des contrats entre la France et la Russie, notamment pour ce qui concerne le gaz, le nucléaire et les engrais chimiques. Il rappelle par cette action que l'année dernière, la France est devenue le premier importateur européen de gaz naturel liquéfié russe, avec une hausse de ses importations de 80% par rapport à l'année précédente. La France a aussi augmenté de 86% ses importations d'engrais chimiques russes entre 2021 et 2023. Et enfin, concernant le nucléaire, elle continue d'entretenir des relations étroites avec Rosatom, c'est l'entreprise publique nucléaire russe d'extraction d'uranium. Et c'est ainsi que l'uranium de retraitement français est envoyé en Russie pour y être converti, la France participant ainsi au projet russe de construction d'une centrale nucléaire en Russie. En Hongrie, pardon.
Non mais n'importe quoi, non mais...
Allez, on termine avec la mode et cette projet de loi, une loi anti-fast fashion qui pourrait bien se terminer en eau de boudin et une nouvelle loi sous forme de coquille vide. Sera-t-il donc encore un recul infligé à cette proposition de loi anti-fast fashion? Cette fois-ci, ça ne vient pas du Sénat, mais du gouvernement. Ce texte a été voté il y a plus d'un an à l'unanimité par les députés en Assemblée. Il doit être examiné en effet ces jours-ci, donc c'était hier et aujourd'hui, par les sénateurs. Et le gouvernement déposait donc le 28 mai dernier un amendement qui va supprimer le montant des pénalités financières pour donc les marques de fast fashion. Dans la version qui était adoptée à l'origine par les députés, la pénalité était basée justement sur l'affichage environnemental d'un vêtement et elle était donc progressive. 5 euros par produit en 2025, 6 euros en 2026 et 10 euros en 2030. Donc histoire d'encourager aussi des marques qui feraient des actions pour un petit peu améliorer justement le coût environnemental de leur production. Eh bien, en enlevant cette clause, le gouvernement veut renvoyer à l'éco-organisme ReFashion le soin justement de fixer les pénalités. Sauf que ce dernier, pour l'instant, n'a jamais établi de pénalité supérieure à 0,09 euros par fringue, ce qui n'est pas beaucoup. Le montant élevé des pénalités est pourtant essentiel pour réguler et contrer le modèle de la fast fashion, expliquait notamment la coalition Stop Fast Fashion, dont font partie par exemple les Amis de la Terre ou Emmaüs France. Ils rappellent que le modèle de la fast fashion est délétère à la fois pour les droits humains des personnes qui fabriquent les vêtements et également pour l'environnement. Difficile donc de ne pas voir dans ce recul législatif un lien avec justement le lobbying renforcé de la part du géant chinois Shein ces derniers jours. La marque Shein a massivement envoyé au Sénat une étude d'impact qui dénonce la hausse potentielle des prix des vêtements les plus polluants, explique la coalition Stop Fast Fashion. Et si l'amendement gouvernemental venait à être adopté, la loi deviendrait donc une coquille vide à laquelle donc même les marques d'ultra fast fashion, oui ça existe, échapperaient. Et c'est ce au grand dam justement des associations qui alertent depuis des années sur les ravages de cette industrie.
Des nouvelles du monde.
Allez, de la mode au lycée, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir allègrement. Et nous en profitons pour accueillir une nouvelle chroniqueuse qui, pour ne pas faire comme tout le monde, fait sa rentrée chez nous au mois de juin sur les ondes. C'est Héloïse, jeune étudiante en journalisme à l'école HEJ de Montpellier, qui nous proposera aussi souvent que possible dans Les Nouvelles du Monde son regard sur l'actualité. Bienvenue à toi, Héloïse, je te laisse le micro.
Et oui, c'est bientôt la fin d'année, et qui dit fin d'année dit examen. Le bac approche à grands pas, avec son lot de stress, de révisions de dernière minute, et bien sûr de perles. Et oui, les fameuses perles du bac, ce florilège de phrases farfelues, involontaires, parfois géniales malgré elles, que les correcteurs recueillent chaque année comme autant de trésors. Elles fleurissent sur les réseaux, dans les journaux, voire même au JT de 20h, une tradition presque aussi française que la baguette sous le bras. On les attend même parfois plus que les résultats. Un petit exemple pour se mettre en jambes, Victor Hugo est né à l'âge de 2 ans. On sourit, bien sûr, on se dit que c'est mignon, qu'on n'était pas mieux à leur âge, et puis au fond, ça rassure un peu tout le monde. On se dit que l'erreur est humaine et que parfois, l'absurde est un petit chef-d'œuvre d'inconscient. Et puis, il faut avouer que ces perles ont un petit goût de revanche, comme si, au milieu d'un système très sérieux, très normé, une étincelle d'absurde venait remettre un peu de fantaisie. Une manière inconsciente mais brillante de désamorcer la pression, de dédramatiser l'échec. Parce qu'au fond, ces phrases nous rappellent que derrière chaque copie, il y a un ado qui doute, qui rame, qui tente des trucs. Et parfois, ça dérape. Mais c'est aussi ce qui fait leur charme. Malgré tout, ces petites boulettes révèlent peut-être autre chose qu'une simple fatigue de fin d'épreuve. Il faut dire qu'à 17 ans, avec 4 heures devant soi, un sujet de philo sur « le réel est-il toujours rationnel ?» et 37 degrés dans la salle, le cerveau a parfois ses raisons que la logique ignore. Et dans ce brouillard cérébral, chaque mot devient un défi, chaque phrase une expédition. Ces phrases absurdes ne veulent pas dire que les élèves sont bêtes, loin de là, elles sont souvent le résultat d'un mélange explosif entre stress, fatigue, manque de temps, voire même de confiance, et parfois une vraie tentative de répondre, coûte que coûte, même quand on n'a plus rien à dire, une tentative sincère de dire quelque chose, n'importe quoi, mais quelque chose, et puis il y a un fond plus sérieux. Beaucoup de ces perles montrent qu'on demande encore souvent aux élèves de réciter, d'appliquer, sans toujours forcément comprendre, ce qui donne des trucs comme l'exemple du Titanic sert à démontrer l'agressivité des icebergs. Alors oui, bien sûr, on en rigole, mais rire des perles du bac, c'est aussi rire d'un système un peu rigide, parfois même déconnecté, qui met tous les élèves sur la même ligne de départ, sans regarder s'ils ont des baskets, des tongs ou des palmes. Un système où le plus important n'est pas toujours de comprendre, mais de rentrer dans les cases, et tant pis si on déborde. C'est oublier que ces phrases viennent de jeunes qui, malgré les galères, malgré l'année, étaient là, face à leur copie. Ils ont écrit, tenté, inventé parfois, ce qui est donc pas si mal. C'est même, d'une certaine façon, assez admirable. Alors oui, continuons à sourire devant les perles du bac. Après tout, certaines sont franchement brillantes, comme celle-ci relevée en Histoire Géo qui dit que la Corée est une dictature avec son cruel président King Kong. Mais pensons aussi à ce qu'elle nous raconte. Une école qui pousse à retenir plus qu'à réfléchir, des élèves qui improvisent pour s'en sortir et un monde adulte qui oublie parfois ce que ça fait d'avoir 17 ans en plein mois de juin. Avec la chaleur, les hormones, les attentes et cette drôle d'impression que tout se joue maintenant. Et surtout, à tous ceux qui s'apprêtent à plancher cette année, bon courage. Que votre bac ne donne pas trop de perles, ou alors qu'elle soit drôle et bien notée. Et souvenez-vous, dans le doute, mieux vaut une belle absurdité qu'une page blanche.
Audi, panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Merci beaucoup Héloïse. Et oui, on souhaite de la confiance à tous les étudiants qui vont plancher, surtout ne pas trop se déconcentrer, puisqu'en ce moment, c'est aussi l'arrivée des résultats Parcoursup qui déstabilise parfois un petit peu, puisqu'on a les résultats ou pas de ce qu'on voulait avant même d'avoir commencé à passer son bac. Bon courage donc à toutes et à tous pour cette dernière ligne droite. Puis rappelez-vous, hein, les études, c'est pas toute la vie. Hein. Moi, j'ai fait de la biologie, maintenant je fais de la radio, tu vois, donc voilà. Héloïse, on te retrouve la semaine prochaine.
Oui, avec plaisir.
Ben, merci à toi, chers auditeurs, chères auditrices. À très bientôt. Pardon, on se retrouve jeudi. Non, pas la semaine prochaine, on se retrouve jeudi. On a du boulot d'ici là. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.